Bon dimanche, mon nom est Eric, alias Distoman. Vous êtes à l'écoute du Disto News, édition du 12 septembre 2021. C'est parti! La commémoration du 20e anniversaire des événements du 11 septembre et Jesse Ventura, l'ancien lutteur, acteur et gouverneur du Minnesota. On écoute ça ensemble.
Jesse, what would you have done on September the 12th, 2001? What would you have done if you'd been president?
What would I have done?
Yeah.
I would have done a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly like they did Lee Harvey Oswald? How quick they knew Lee Harvey Oswald killed Kennedy.
Because the people who did it were identified and we knew who they were.
Well, then why couldn't we have stopped them beforehand if they were identified and we knew who they were?
It was a failure of intelligence. Everyone's accepted
that. No, it wasn't. We knew before with Condoleezza Rice's memo on August 6th when it stated right in the memo, Bin Laden to steal planes and run them into buildings. And more stuff is coming out now also how much the Bush administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it because they wanted it to happen.
Oh, come off it, Jesse.
That'd no, not oh, come off it. Wait a minute. No. Every war starts with a false flag operation.
You can't, in all seriousness, sit there and try and make anybody
okay,
in the
let me ask you this, Piers. Wait a
happen.
Minute.
Let
me,
wait, wait.
Let me ask you something. How much studying have you actually done of 9/11 other than what the government's told you and what mainstream media
a lot,
has told
actually.
You?
I was editor,
I've been studying it 4 years.
I was editor of a national newspaper.
I've talked to people.
We covered it in depth every day for
really?
5-6 months.
Really?
So I know a lot about it.
Well,
and one
then
thing
how
I
come,
do know is...
Let me ask you this,
you
then.
You cannot say that any member of the Bush administration knew it was going to happen or wanted it to happen. It's a ridiculous thing to say.
Ridiculous. Okay, let's talk about your BBC. I have a tape of a BBC reporter broadcasting directly back to England, talking about a third building has collapsed, World Trade Center Building 7, talks for 7 minutes. All the while she's talking, World Trade Center Building 7 is still standing right behind her. It didn't fall for another half hour, yet they were doing a pre-broadcast back to England
that this building fell
and it hadn't fallen yet.
If you're trying to make out the British Broadcasting Company, one of the most respected news organizations in the world, was inventing huge buildings falling over, you need to have a break, Jesse. We'll come back after the break and we'll talk about Israel and Iran.
Are you kidding me? This is a fact, my friend.
Le British a l'air de beaucoup aimer le nouvel ordre mondial et de se ranger toujours vers celui qui paye le plus cher. Jesse Ventura, c'est un vrai, le gars, il entend pas à rire et il passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il a à dire. Je vous le traduirai pas parce que ça viendrait défaire le sens de tout ce que Ventura a dit. Je m'excuse pour les non-bilingues, mais celle-ci, elle était trop frappante pour célébrer le 11 septembre ensemble. Parce que tout ça, c'est un gigantesque bordel de mensonges, de manipulations et de camouflage comptable. D'abord et avant tout, le 11 septembre, c'est une affaire d'argent.
Est-ce que vous savez que l'obésité s'est considérée comme une épidémie mondiale depuis 2003 par l'OMS? Est-ce que vous savez que ça fait 25 morts par jour, l'obésité? Est-ce que vous savez que ça vous coûte, à vous les contribuables québécois et à moi aussi, 3 milliards de dollars par année, puis que pourtant, il n'y a aucune prévention, que la RAMQ ne va pas vous rembourser votre nutritionniste, elle ne va pas vous rembourser votre entraîneur, elle ne va pas vous rembourser votre abonnement au gym. Vous savez ce que la RAMQ va faire? Elle va rembourser votre chirurgie bariatrique, elle va rembourser vos médicaments pour le diabète et elle va payer vos traitements pour le cancer. Mais tout ce qui est préventif, c'est pas remboursé. Vous savez ce qu'il y a de pire encore? C'est que c'est taxé. Moi, mes entraînements, faut que je vous les taxe. Faut que je mette une taxe sur quelque chose qui vous amène du bien-être. Tant que vous ne serez pas malade, puis que vous ne serez pas en train de prendre des médicaments, on ne va pas vous aider. Au contraire, on va vous taxer à prendre soin de vous.
Parce qu'une animatrice low IQ d'un talk show poche, le débat des chefs, déblatère ses préjugés woke, c'est le Québec avec un grand cul qui est attaqué, Jean-Luc Blackburn. On m'interdit de porter un N95 à l'urgence, mais on désinfecte le stylo avant de me le donner. Mon découragement est abyssal. Christian Dubé. Le virus est dans l'air, pas sur les objets, ça vient de Janie Cartwright. Et oui, c'était les tweets d'hier qui, moi, ont attiré mon attention. COVID-19, l'OMS plus pessimiste sur la capacité des vaccins à mettre fin à la pandémie par Le Figaro. Le directeur de l'OMS en Europe s'est montré plus pessimiste vendredi le 10 septembre sur la capacité d'un taux élevé de vaccination à stopper à lui seul la pandémie du fait des variants qui ont réduit la perspective d'une immunité collective. Avec une probabilité accrue que la maladie demeure de façon endémique sans être éradiquée, Hans Kluge a appelé, lors d'une conférence de presse, à anticiper pour adapter nos stratégies de vaccination, notamment sur la question des doses supplémentaires. En mai, le responsable sanitaire de l'ONU a affirmé que la pandémie sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de 70 % de la population mondiale. Interrogé sur le fait de savoir si cet objectif valait toujours ou s'il devait être relevé, Hans Kluge a signalé que les nouveaux variants plus contagieux, principalement le Delta, avaient changé la donne. À l'époque même, si le variant détecté initialement en Inde sévissait déjà, il n'y avait pas une telle émergence des variants plus transmissibles et plus viraux, s'il fait savoir. Donc, je crois que cela nous amène au point où l'objectif essentiel, la vaccination, est avant tout d'empêcher les formes graves de la maladie et de la mortalité, a souligné Kluge. L'immunité collective, désormais illusoire, si on considère que le COVID va continuer à muter et rester avec nous, comme la grippe, alors nous devons anticiper comment adapter progressivement cette stratégie de vaccination à la transmission endémique et acquérir un savoir très précieux sur l'impact des doses supplémentaires, a-t-il ajouté. Selon des épidémiologistes, il semble désormais illusoire d'attendre et d'atteindre également l'immunité collective uniquement grâce aux vaccins. Mais ceux-ci restent tout de même cruciaux pour circonscrire la pandémie. Un niveau très élevé de vaccination reste aussi indispensable pour réduire la pression sur les systèmes de santé qui ont désespérément besoin de traiter les autres maladies que le COVID, a souligné Kluge ce vendredi. Désormais dominant, le fameux variant Delta est jugé 60 % plus transmissible que le précédent et deux fois plus que le virus d'origine. Alors, or, un virus, plus il est contagieux, plus élevé, le seuil nécessaire à l'immunité collective, c'est-à-dire le seuil de personnes immunisées au-delà duquel l'épidémie cesse. Celle-ci peut s'obtenir via des vaccins ou l'infection naturelle.
J'haïs tellement ça, le mot anti-vax. Je suis pas une anti-vax, je suis un anti-cobaye. Je suis pas un fucking cobaye. Quand ils font les tests sur les animaux, puis les animaux meurent, puis ils disent « Bon, on va faire ça, c'est humain. » Bravo, non.
Au Brésil, maintenant, on suspend l'utilisation de 12 millions de doses du vaccin chinois Sinovac. Un article de Rita Lee, alors le régulateur brésilien de la santé, a suspendu l'utilisation de plus de 12 millions de doses de vaccins fabriqués en Chine le 4 septembre dernier à la suite de la découverte de leur production dans une usine non autorisée selon un communiqué officiel. Les autorités ont déclaré que l'interdiction était par mesure de précaution pour prévenir un éventuel risque imminent. Qui est surpris de cela? Personne, bien sûr! L'unité de fabrication n'a pas été inspectée et n'a pas été approuvé par Anvisa dans le cadre de l'autorisation de l'utilisation d'urgence du vaccin mentionné, a déclaré samedi. Anvisa, c'est-à-dire l'autorité fédérale de régulation de la santé du Brésil. Un jour auparavant, l'Institut Butantan de São Paulo, un centre biomédical local fondé par le gouvernement de l'État, avait envoyé une alerte à Anvisa. L'institution devait remplir et finaliser 25 lots de 12,1 millions de doses à leur arrivée au Brésil dans le cadre de partenariat avec la société chinoise Sinovac. 17 autres lots, totalisant 9 millions de doses produites dans la même usine, étaient en route pour le Brésil, a indiqué M. Butantan au régulateur. Alors, le régulateur a maintenant émis une interdiction de 90 jours et il enquête sur l'usine et le processus de fabrication en question. Le Brésil a lancé son programme de vaccination au début de l'année. La grande majorité des vaccins administrés provenant de Sinovac, d'autres vaccins provenant d'autres fabricants, ont depuis été mis en ligne. Le ministre de la Santé, Marcelo Quiroga, a déclaré le 25 août que les personnes âgées de 70 ans ou plus et dont le système immunitaire est faible pourront recevoir une troisième dose à partir du 15 septembre, de préférence avec le Pfizer. Un personnel médical de l'endroit a avisé comme quoi que la procédure avec le Sinovac était extrêmement préoccupante. Diana Dos Santos, 71 ans, a reçu deux injections du vaccin Sinovac, mais refuse désormais de sortir de chez elle tant qu'elle n'a pas reçu son rappel. La madame affirme « Je ne peux pas sortir comme avant et j'ai encore peur de tout cela », a déclaré Mme Santos à l'Associated Press. « Je me sentirais plus en sécurité avec un rappel ». Les responsables chinois ont affirmé que le vaccin protège contre le variant Delta, empêchant notamment les hospitalisations et les cas très graves. Le Brésil a signalé plus de 580 000 décès dus au virus, mais le pays a connu une baisse du taux de mortalité et des cas actifs au cours des deux derniers mois. Alors, c'est une situation à suivre au Brésil parce que, voyez-vous, c'est un pays extrêmement populeux et important pour l'économie de toute la pointe de l'Amérique du Sud. Un petit joyau d'article cette semaine de Nathalie Elgrabli, La logique moyenâgeuse. Oui, ça, c'est de l'article qui me plaît. L'histoire de l'humanité a démontré que les contextes épidémiques favorisent la recherche de boucs émissaires. Au Moyen-Âge, par exemple, on accusait les pauvres, les vagabonds, les étrangers, les juifs d'être des semeurs de peste. Désigner un bouc émissaire était une manière d'exorciser les peurs du moment. Donner un visage à un ennemi, jusqu'alors invisible, identifier les victimes sacrificielles, était la soupape privilégiée pour apaiser les populations soudainement confrontées à leur propre mortalité. Malheureusement, la modernité n'a pas enrayé cette pratique archaïque. Les coupables, ça n'en prend, il suffit d'écouter la classe politique ainsi que certains médecins fortement médiatisés pour comprendre que le nouveau coupable par excellence est aujourd'hui l'individu non vacciné. Entre autres, il serait responsable du débordement des hôpitaux et de l'effondrement quasi imminent du système de la santé, et pourquoi pas de la société en général, tant qu'à y être. Toutefois, ne nous laissons pas piéger par cette logique de stigmatisation. Le réseau québécois de la santé dispose d'un budget de 52,3 milliards de dollars. Va-t-on vraiment croire qu'il suffit de 171 patients pour dynamiter pareil colosse? Faut-il rappeler que les urgences qui débordent, les listes d'attente interminables pour voir un spécialiste ou passer un examen, ainsi que la pénurie de médecins n'ont pas surgi avec le virus, mais qui constituent un problème systémique depuis plus d'un demi-siècle? Il faut de la cohésion. M. Legault affirmait mardi qu'il est important de garder la cohésion sociale. C'est à mourir de rire. Il a raison. Or, ce n'est pas certainement en instigant la logique moyenâgeuse du bouc émissaire qu'on y parviendra. Plutôt que de se dédouaner de ses responsabilités en faisant porter l'odieux d'un système défaillant sur les non-vaccinés, notre élite politique devrait plutôt reconnaître que la pandémie a exposé tous les travers d'un réseau soviétisé et gangréné par la bureaucratie et que même sans un patient COVID, le réseau sous perfusion agoniserait. Pointer un doigt accusateur, lequel divise sournoisement et funestement la population, est une pente savonneuse. Il faut apprendre de l'histoire et recalibrer d'urgence notre boussole morale. Quel joyau incroyable! Merci, Mme Grabli. La pandémie, l'élection fédérale, les enjeux sociaux, l'économie, la dette, nos jobs, nos boss, nos amis. Qu'est-ce qui se passe avec tout cela sous l'œil qui surveille partout, qui nous guette? L'œil de la technocratie, cette technocratie qui met la vérité à mort. Oui, à mort, à coup de lance, à coup de propagande, à coup de désinformation, un bon coup de lance en plein cœur de la liberté. Maintenant que le monde, dans son ensemble, en tout cas dans les grandes puissances, se dirige vers une technocratie abyssale qui va tout contrôler, le problème du mensonge en politique, ainsi que dans le sens des mots, vérité et réalité doivent être réévalués. Il faut se souvenir que pendant la période précédant l'invasion de l'Irak en 2003, le gouvernement américain proclamait au monde entier que Saddam Hussein était en possession d'armes de destruction massive. Alors, à l'époque, l'administration Bush ne disposait d'aucune preuve réelle pour étayer cette affirmation. Ça ne fut pas un obstacle à poursuivre le fameux plan d'action souhaité. Les preuves nécessaires ont été inventées et les preuves contradictoires ont été autoritairement rebootées. L'exemple suivant est très instructif. José Bustani, le directeur fondateur de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, s'efforçait à l'époque de faire accepter l'Irak comme membre de l'OIAC, car cela aurait permis des inspections approfondies et Bustani s'attendait pleinement à ce que ces inspections confirment ce que ses propres experts en armes chimiques lui avaient déjà dit, à savoir que toutes les armes de Saddam avaient déjà été détruites dans les années 90 après la première guerre du Golfe. La réponse de l'administration Bush à Bustani a été très rapide. Un certain John Bolton, Trump le connaît bien lui, ce gars-là, John Bolton, le faucon, alors sous-secrétaire d'État à cette époque, lui a donné 24 heures pour démissionner ou en subir les conséquences. Pour l'administration Bush, le renversement de l'Irak était une affaire bien trop importante pour que la vérité y fasse obstacle. Comparez cela à la ligne de conduite adoptée par John F. Kennedy lors de la crise des missiles cubains. La crise elle-même a été déclenchée lorsque des avions espions américains ont photographié des missiles sol-sol S-4 soviétiques à capacité nucléaire en cours d'installation sur le sol cubain. Contrairement aux armes chimiques irakiennes, ces armes de destruction massive à l'époque étaient réelles et non inventées. Malgré cette preuve factuelle, et même si cela allait à l'encontre des conseils insistants de ses militaires, Kennedy a refusé d'entrer en guerre. Il refusait d'envahir Cuba, sauvant ainsi, selon toute vraisemblance, le monde, d'un apocalypse nucléaire total. Mais il existe un point de comparaison encore plus instructif entre les deux cas. Les efforts constants de Kennedy dans le sillage de la crise des missiles cubains pour tenter de comprendre l'Union soviétique de l'époque. Le discours qu'il a prononcé en juin 1963 à l'American University témoigne des efforts du président pour comprendre à la fois les motivations et la réalité complexe de l'adversaire soviétique de l'époque. En décrivant les deux camps comme également pris au piège d'un cercle vicieux et dangereux, la suspicion d'un côté entraînant la suspicion de l'autre, Kennedy a montré un esprit influencé par l'Hilaire d'Homère. Il a loué le peuple russe pour ses nombreuses réalisations dans le domaine de la science et de l'espace, sa croissance économique et industrielle, sa culture et ses actes de courage. Il a reconnu les pertes massives de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme. Au lieu de déshumaniser l'adversaire de l'Amérique, il a fait le contraire. Il a souligné notre humanité commune. Nous respirons tous le même air, nous chérissons tous l'avenir de nos enfants et nous sommes tous mortels. Le contraste entre le niveau de réflexion atteint par Kennedy lors de son discours à l'American University et les banalités et mensonges si régulièrement proférés par les présidents américains depuis lors ne pourrait guère être plus dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement depuis tout ce temps-là? Comment les qualités de la pensée et du leadership américain a-t-elle pu décliner de manière aussi vertigineuse? Au moment où George W. Bush et Dick Cheney sont devenus les occupants de la Maison-Blanche, la conscience chrétienne classique, à part quelques fioritures rhétoriques peu convaincantes, n'était déjà plus qu'un lointain souvenir. La politique, la culture et la société américaine étaient devenues profondément technocratiques. La conscience séculaire, présente dès le début, a subi une transformation. Ou peut-être serait-il préférable de dire, s'est concrétisée en une technocratie implicite dans son idée même. Selon la technocratie, la raison, voire la rationalité, ne sont plus reconnues comme ayant une valeur intrinsèque. Elles n'obligent plus notre accord. Au contraire, elles sont désormais elles-mêmes soumises à notre volonté. La nature devient du mastic entre les mains de l'homme technologique. Il n'est même plus possible, dans certains cas, de parler d'homme. Et n'oubliez pas l'intervention divine de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place. Mais revenons aux humains, là. Les acteurs qui agissent au sein de la société technologique refusent une telle dénomination. Ce sont ceux qui décideront désormais technologiquement de ce que nous sommes et de qui nous sommes jusqu'au cœur de notre existence biologique. Klaus Schwab, ça vous dit quelque chose? Oui! Ce milieu culturel mondialiste américain présente deux aspects, deux vecteurs de fonctionnement. D'une part, nous avons les révolutionnaires de la gauche et les adeptes des cours accélérés sur Karl Marx et Michel Foucault, qui, en nombre surprenant, ont récemment fait irruption sur les campus universitaires américains. Et puis, nous avons, d'autre part, le nombre étonnamment élevé d'entreprises mondiales, et en particulier, tous les grands géants des médias sociaux qui, en tant que groupe, ont embrassé cette révolution. Ces derniers, en particulier, contribuent à discipliner le discours public afin qu'il reste conforme à la nouvelle idéologie mondialiste conquérante. Et maintenant, on se rend compte à quel point ça vaut la peine de publier des choses sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens trop cons pour abandonner. Exemple, Distoman. Maintenant, je vous propose un article de Karine Béchet-Golovko, que j'ai reçu avec grand plaisir au podcast Disto Show, de son blog Russie Politics. Alors, Jean Cataly en 2009 et la pandémie comme mode de changement, de paradigme moral, tout cela est en cours. Alors, nous sommes en 2009, donc une décennie avant l'événement de l'ère du fameux virus. Manifestement, la poussée pandémique n'a pas été suffisamment utilisée pour réaliser ce plan. 10 ans plus tard, tous les mécanismes sont prêts. Jean Cataly décrypte alors avec un brio le moyen le plus simple et le plus efficace de briser notre société, notre civilisation qui s'appuie sur un code moral, sur des règles sociales, sur une certaine vision de l'homme. Par la peur, oui, la peur, par la pandémie, et l'homme lui-même anéantira son monde. Quelques extraits de M. Attali dans une chronique pour l'Express publiée le 6 mai 2009. Jacques Attali explique les mécanismes de ce qui a été fait autour du COVID depuis 2019. Alors, on est 10 ans plus tard. Je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Et elle met alors en place des mécanismes de défense parfois intolérables, comme des boucs émissaires, parfois futile, de la distraction, parfois très efficace, des thérapeutiques écartant si nécessaire tous les principes moraux qui étaient appliqués antérieurement. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes, frayeur des 15 dernières années, liée à un risque de pandémie, si on revient en arrière, on se rend compte que la crise à vache folle en Grande-Bretagne et celle de la grippe aviaire en Chine, on s'est créé une peur, mais ça n'a pas fonctionné. Eh bien, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives. La chute des transports aériens, la baisse du tourisme, les prix du pétrole, etc., etc. Elle aura des conséquences en matière d'organisation. Tu sais, il faut revenir en 2003. Il y a eu des mesures policières très rigoureuses qui ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures d'alerte à l'échelle planétaire à cette époque-là. Et même s'il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons afin qu'avant la prochaine, la fameuse crise qui sera inévitable, bien sûr, on met en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique et mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France, au XVIIe siècle, la mise en place d'un véritable État. Je vous laisse réfléchir sur le parallèle qui s'impose avec la gestion globalisée de la crise d'aujourd'hui, le transfert du pouvoir réel du niveau national à un niveau supranational. Je vous laisse réfléchir à cet impératif sanitaire qui écrase toute morale, toute liberté, à cette police globale qui écrase nos libertés individuelles, à cette destruction de notre civilisation et de notre humanité pour notre bien, bien sûr, et surtout avec le consentement d'une grande partie de la population des esclaves ambiants, de cette population qui a été mise en état de choc, de cette population qui a peur, de ces hommes et ces femmes qui ont tellement peur de la vie qu'ils sont prêts à l'abandonner entre des mains inconnues parce qu'ils sont déjà prêts à la mort. Madame Bechet-Golovko, merci pour ce trésor.
Non, non, on n'oblige pas, mais tu peux plus aller nulle part. Non, non, on n'oblige pas, mais si tu travailles en santé, t'es congédié sans solde si t'es pas vacciné. Non, non, on n'oblige pas. Si ta femme a la couche, t'es non vacciné, tu peux pas y aller.
L'ivermectine, le vaccin, la désinformation, la propagande, etc., etc., etc. Avez-vous un détecteur personnel de bullshit médiatique? Êtes-vous capable de détecter la propagande et de la déstructurer avec votre détecteur? Eh bien, dites-vous que faudrait se poser quelques questions franches à chaque fois qu'on lit un article ou qu'on analyse une information pour régler notre détecteur sur le bon meter, pour être capable d'être en mesure d'aller chercher les points de manipulation et de les détecter les plus rapidement possible afin de ne pas être contaminé par un article ou une publication mensongère. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le récit du COVID, et on le voit pas mal tous, là. Des informations qui sont contradictoires, trompeuses, changeantes, là, c'est partout, là. Personnellement, moi, je vous le dis que mon détecteur de bullshit viral personnel, là, il sonne sans arrêt depuis le mois de mai. Quels sont les justificatifs d'identité de la personne qui donne le message? Quelles sont les études de la personne? Et quelles études ont été faites pour valider le message? Les études sont-elles validées par des experts reconnus? La personne qui vend est-elle synonyme de profit? A-t-elle des motifs douteux ou des antécédents douteux? Combien d'autres vendent ou utilisent ce produit et quel est leur succès? Quels sont les risques liés à ce produit? Avant de nous plonger dans la définition de notre détecteur de bullshit covidienne, jetons ensemble les bases. Certains auditeurs peuvent avoir de très courts souvenirs. D'autres peuvent avoir toute confiance que notre gouvernement, nos organismes nommés, nos sociétés géantes ne mentiront jamais, ne fausseraient jamais les données, n'utiliseraient jamais de propagande ou nous protégeront avec des politiques. Passons en revue un peu d'historique à ce sujet pour faire valoir un point. Combien de fois l'administration Bush a-t-elle utilisé la propagande et cité l'Irak avec la fameuse histoire des armes de destruction massive pour justifier une guerre là-bas? Comme l'une des nombreuses citations de cette administration, il y avait une ligne classique de Dick Cheney qui disait « Il ne fait aucun doute que Saddam Hussein dispose maintenant d'armes de destruction massive. » Revenons au Vietnam. Que diriez-vous de la propagande d'entrée en guerre qui était justifiée en répondant à une attaque du Nord-Vietnam connue sous le nom d'incident du golfe du Tonkin? Ben, il s'est avéré que l'attaque contre le destroyer Maddox n'a jamais eu lieu. Et ça, on le sait tous. Que diriez-vous de l'industrie de la cigarette et du tabac? Dans les années 30, les pathologistes faisaient état de dommages causés par le tabagisme, et certainement, dans les années 50, les preuves des dangers du tabagisme étaient très, très claires. Pourtant, au cours des 20 années suivantes, l'industrie de la cigarette a dépensé d'énormes sommes d'argent pour le déni et a même créé un film de propagande « Fumer et santé » pour créer un doute sur les problèmes de santé et permettre aux distributeurs automatiques d'argent des compagnies pharmaceutiques et de tabac de continuer à sonner parce que l'un fonctionne avec l'autre. Et avec des preuves médicales incontestables qui étaient disponibles partout, où les agences s'occupaient-elles de notre santé? On a tous entendu parler des poursuites pour les fameux les glyphosphates. Là. Combien de personnes savent qu'avant la récolte, il était pratique courante de pulvériser du glyphosate comme agent de séchage sur les cultures? De très nombreuses études montrent maintenant que les céréales pour petit-déjeuner courante ont des niveaux de glyphosate bien supérieurs aux niveaux sûrs désignés par les agences de régulation. Pourquoi la FDA, ici Santé Canada et d'autres organismes gouvernementaux ont-ils permis à Monsanto, qui est maintenant Bayer, de continuer à promouvoir et à vendre ce produit chimique comme agent de séchage sur nos cultures vivières? Comme dernier exemple, y a-t-il jamais eu un plus grand exemple de propagande et de mensonge que le régime nazi qui a convaincu une partie des 70 millions de citoyens allemands du concept de race supérieure qui a conduit au camp de la mort de la Seconde Guerre mondiale? Pour certains, c'est un concept difficile à saisir. On veut tous croire que nous vivons dans un monde pacifique en suivant tous les fondements de la constitution du pays où on vit. On veut tous croire que les grandes entreprises agissent toujours de manière éthique et font ce qui est juste. Les faits sont que la propagande, c'est un pilier des gouvernements et des grandes entreprises qui marchent main dans la main. La propagande, les distorsions de la vérité et même les mensonges se produisent avec les gouvernements et les grandes entreprises. C'est à nous tous, en tant qu'individus, de recueillir des données et d'apporter des entrées dans notre détecteur de bullshit personnel et d'ajuster le contrôle de votre gain du détecteur bullshit en question. Comme moyen de provoquer la réflexion, certains sujets brûlants ou d'histoires de théorie du complot soumis à notre détecteur de bullshit individuel pourraient inclure les suivants. Bigfoot existe, le monde du Loch Ness aussi, Cuba, la CIA et d'autres étaient vraiment derrière l'assassinat de Kennedy. Le vrai tireur était sur la butte herbeuse. L'atterrissage de la lune Apollo était faux. Des pierres mégalithiques du Baalbek et d'autres sites en Amérique du Sud étaient impossibles à construire sans la technologie orale de l'intervention divine. Le 9 septembre était connu à l'avance et le World Trade Center s'est effondré par une détonation contrôlée. Roswell était un accident de ballon météo ou c'était une histoire de dissimulation gouvernementale. Il est prouvé que le changement climatique est d'origine humaine, où le changement climatique est un phénomène naturel et nous ne pouvons rien faire pour changer ça. Nous avons tous des croyances et des incrédulités sur tous ces sujets. Bien que je pense que certains de ces événements soient intéressants, aucun de ces événements n'a d'impact immédiat sur ma vie quotidienne. Par conséquent, mon gain de contrôle de mon détecteur de bullshit est réglé sur bas par rapport à ces histoires. Et le COVID! Parlons-en du crise de COVID. Il faut réinitialiser le calendrier à l'automne 2020. COVID s'est déchaîné à cette époque-là à travers le monde et nos vies ont été bouleversées. Peut-être pas comme la Seconde Guerre mondiale, là, où le monde entier était axé sur une seule histoire. Nous nous sommes tous tournés vers l'industrie médicale pour nous sauver. De nombreux vaccins ont été promis et les entreprises de biotechnologie faisaient la promotion de nouveaux traitements médicamenteux merveilleux, tels que Remdesivir, qui traiterait les patients. Les débats avaient eu lieu sur la question de savoir si les vaccins étaient précipités parmi un sommet historique de théâtre politique et du débat sur l'intégrité territoriale des États et des constitutions à travers le monde. Avec le recul, Il est plus que décevant qu'il n'y ait pas eu de financement pour tester les utilisations non indiquées sur l'étiquette des médicaments qui étaient sur le marché pendant de nombreuses années avant le virus. Au lieu de cela, tout le gros financement de l'industrie pharmaceutique était destiné à des médicaments biotechnologiques nouveaux et coûteux. Pourquoi il n'y a pas-il eu de financement de médicaments réutilisés qui avaient une forte efficacité pour le traitement et la prévention des virus? Mon détecteur de bullshit a commencé à sonner en haute alerte lorsque j'ai vu la vidéo du témoignage du Dr. Kerry au Sénat en décembre 2020. Je n'avais jamais entendu parler de vermectine, mais le Dr. Kerry semblait avoir de très solides références et était tellement passionné par l'innocuité et l'efficacité de ce médicament que ça m'a marqué. J'étais un peu sceptique, mais j'ai pensé qu'avec une histoire comme celle-ci, elle serait immédiatement complètement nettoyé par des médias grand public. S'il y avait un médicament qui guérissait le COVID et qui était si sûr, si bon marché, si facilement disponible, ce serait presque un miracle et on retrouverait nos vies. Mais le miracle n'a pas eu lieu. On est dans l'enfer. Il y en a un qui s'est levé pour le prouver, c'est Joe Rogan. Et à partir de maintenant, ils sont tous après lui, comme des hyènes enragés. Voici un résumé, un pot-pourri du débat francophone qui opposait les chefs reconnus pour l'élection fédérale de 2021, bien entendu en l'absence de Maxime Bernier qui les aurait probablement tous pulvérisés. Alors, je mets ça pour la fin. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter et sinon, vous pouvez toujours appuyer sur le piton off. Bon week-end à tous! Profitez du temps en famille, c'est important. À la prochaine!
Merci d'être là, très sincèrement. C'est un exercice sain et vraiment précieux en démocratie. 5 thèmes seront abordés ce soir. Chaque thème sera lancé par une question d'un citoyen.
Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les gouvernements provinciaux protègent mieux les aînés qui sont en perte d'autonomie?
C'est vraiment une honte nationale ce qui est passé dans cette pandémie, le fait que nos aînés étaient les plus frappés. Ça brise mon cœur. Et vous avez raison, on doit aider les gens.
On va augmenter les transferts en santé dans une manière stable, prévisible et sans condition.
Il faut avoir une approche radicale, une réforme radicale de notre système.
Le fédéral, des libéraux avec une intention similaire chez les autres partis, c'est de retenir cet argent sous réserve d'imposer des conditions fédérales avec la prétention que le fédéral connaît ça mieux que les provinces.
Donc, le fédéral, qui respecte les compétences des provinces, a un rôle à jouer pour assurer les résultats.
Les vaccins sont primordiaux. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Mais en plein d'une pandémie, ce n'est pas le temps d'avoir une approche de division.
Et je fais une distinction entre cette meute qui est en train de manifester et ceux qui, pour des raisons personnelles, sont encore hésitants à se faire vacciner.
Le monsieur du dépanneur pas loin de chez nous disait essentiellement que j'aurais pas mis le feu, mais que je l'aurais pas éteint. C'était pas mal plus direct que ça. C'est un peu ce à quoi on est confronté. Plutôt que de répondre par de l'information, par de l'éducation, par une incitation à aller tout le monde se faire vacciner, on est dans une espèce d'affrontement qui ne sert absolument personne.
On a des options. On peut culpabiliser les gens qui sont fâchés, qui ne sont pas vaccinés, ou on peut essayer de leur éduquer, on peut essayer de leur rassembler. Je crois que la pandémie a changé les choses. Ça a bouleversé moi et ma famille. Je crois que les gens veulent prendre un différent parcours. On ne veut pas aller sur la même voie.
Coût de la vie et finances publiques, nous avons une question du public.
Quel est le plan de votre parti pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre?
Donc, on a quelques solutions. On pense qu'on peut mieux utiliser notre système d'immigration pour accueillir des nouveaux arrivants qui vont aider dans cette lutte contre la pénurie de main-d'œuvre.
Des programmes de crédit d'impôt plus généreux pour les jeunes retraités qui pourraient choisir de continuer à donner quelques journées par semaine au marché du travail. Une ouverture à l'immigration sous réserve, bien sûr, de la capacité d'intégration.
Vous serez peut-être intéressé par l'incitatif à l'embauche qu'on propose, qui va vous aider à augmenter les salaires que vous pouvez offrir à vos employés pour encourager les gens de venir chercher un travail.
Et la pénurie de main-d'œuvre est un risque dans toutes les régions. Et on doit s'attaquer à ça. C'est pourquoi c'est dans mon contrat avec les Québécois et les Québécois. Je vais donner plus de pouvoir en immigration pour le Québec.
L'immigration, la formation, coordination et collaboration. Il faut collaborer et coordonner avec les entreprises pour savoir où sont les lacunes et comment les remplir.
Il faut travailler sur la productivité, pas annoncer des promesses d'emploi, améliorer la productivité des entreprises, souvent par l'automatisation.
Et c'est justement ce qu'on est en train de faire avec un programme digital pour les petites entreprises pour faire un virage numérique
loin d'être
pour
suffisant.
Permettre plus de productivité.
Avec l'NPD et M. Trudeau, on va voir les dépenses sans limite. Et il y a une
vous êtes à la même
enfants.
Côté, vous deux,
c'est
vous voulez couper l'aide aux gens.
Doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs.
Je veux vous parler, et le plus clairement possible, de garderie.
On me demande si tous les hommes ici ont laissé une femme parler sur un enjeu qui impacte les femmes plus que les autres.
Monsieur Autour ne comprend même pas le système de garderie au Québec qu'on a voulu utiliser pour s'inspirer à travers le pays. Il dit qu'il va envoyer un crédit d'impôt aux familles les plus vulnérables au Québec. Les familles les plus vulnérables au Québec ne payent pas pour leur garderie.
On va collaborer et coordonner avec le gouvernement. On a un budget dans notre plateforme chiffré pour ça.
On parle toujours de plan. C'est 6 milliards de moins dans les poches de l'État québécois. J'ai très hâte d'entendre l'expression de la grande affection des conservateurs pour le Québec.
Environnement, thème incontournable, évidemment. Il y en a une question.
Que comptez-vous faire pour diminuer l'utilisation des énergies fossiles au Canada?
Il y a manière de faire plus, il y a manière de faire mieux, il y a manière d'exporter ce savoir-faire.
C'est
ça
possible,
ne passe plus
M.
par
Blanchet.
Les hydrocarbures et les énergies fossiles.
C'est possible,
terminé.
M. Blanchet, vous avez dit ça la semaine passée. C'est possible d'utiliser la technologie, la séquestration de carbone. Et c'est important
non, dit,
dans le secteur
que ça se
énergétique,
pas. Non, j'ai dit que ça
dans
se
le secteur
pas.
De l'aluminium, dans le Saguenay.
En 600, vous avez le pire bilan du G7. Et la réalité, c'est que vous avez promis d'éliminer les subventions pétrolières, une bonne promesse. Mais au lieu de le faire, vous avez augmenté les subventions aux pétrolières. Donc, comment les gens peuvent vous croire?
OK. Tous les différents partis disent, oui, on est sérieux sur l'environnement, parce qu'on est un pays de science et de respect pour la science. La réalité, c'est qu'il faut se fier aux experts.
L'avenir ici au Canada, oui, c'est l'énergie, mais c'est l'énergie renouvelable.
Je suis d'accord.
Nous sommes malheureusement en train de traîner derrière tous nos partenaires internationaux. Il y a une green rush qui se passe maintenant. L'avenir, c'est vert.
Les climatologues, les économistes disent tous que c'est le Parti libéral qui a le seul vrai vote.
Malheureusement. Merci. Identité et culture. Vous avez une question?
Seriez-vous prêt à inclure les langues des Premières Nations, des Inuits, des Métis parmi les langues officielles du Canada?
Oui. Sur le territoire qui est présentement le Canada ou le Québec, les langues autochtones doivent avoir une reconnaissance officielle et être assujetties à une juridiction qui sera celle des peuples autochtones.
La réalité, c'est que nous avons travaillé pour co-développer avec les peuples autochtones d'à travers ce pays des protections et un statut officiel pour les langues autochtones.
On doit reconnaître les langues autochtones comme des langues officielles. C'est une petite chose qu'on peut faire, mais ça va avoir des impacts profonds.
Comme quelqu'un qui fait partie d'une diaspora où nous avons perdu toute notre culture et toutes nos langues, je reconnais sincèrement l'importance de garder les langues, alors absolument.
C'est possible d'avoir des services dans les langues autochtones.
En conclusion, rapidement...
M. Trudeau, quand il dit qu'il ne faut pas dire aux peuples autochtones quoi faire et quoi penser, mais s'il ne faut pas dire aux nations autochtones quoi faire ou quoi penser, pourquoi dit-il à la nation québécoise quoi faire et quoi penser?
Parce que je suis Québécois, M. Blanchet, un fait que vous oubliez constamment que je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, et je suis là avec mon mot à dire. Vous n'avez pas l'unanimité sur le Québec, mais non, vous ne m'accuserez pas d'être pas Québécois, M. Blanchet.
La démocratie québécoise s'exprime à l'Assemblée nationale du Québec.
Justice et affaires étrangères, Noémie, on a une question du public.
Qu'allez-vous faire pour évacuer les Canadiens et les interprètes afghans qui ont été laissés derrière?
Le Canada doit doit respecter leurs promesses. Il faut le faire. Sinon, nous ne serons pas des alliés, sinon nous n'aurons pas de partenaire international.
C'est une tragédie des droits de la personne et les gens sont menacés et ont péril de perdre leur vie. Jamais on aurait dû déclencher une action et maintenant on doit faire tout ce qu'on peut pour sauver les vies de nos alliés.
Malheureusement, il y a des mois, nos vétérans ont demandé un plan d'action sur l'Afghanistan. Mais M. Trudeau a déclenché une élection. Il a ignoré le problème.
Nous devons continuer d'être là pour faire sortir non seulement les Canadiens qui restent, mais des dizaines de milliers de gens
Merci.
De plus que nous allons amener et accueillir chez les Canadiens ici.
Il n'y a que des pressions coordonnées qui feront en sorte que l'étau des talibans sur les interprètes et sur possiblement encore des ressortissants étrangers se relâchera un peu. C'est la seule solution.
Si on parle des armes à feu, des armes d'assaut, absolument, il faut abolir la possession des deux. Mais aussi, il faut attaquer les racines.
On a un plan de faire ça en étroite collaboration avec les policiers, les municipalités, parce qu'on a vu des fusillades à Montréal, à Vancouver, avec des armes à feu.
Parce que vous avez changé votre programme à trois reprises sur le décret.
On doit avoir une approche publique et transparente. Parce qu'on doit enlever la politique.
Monsieur Blanchet, là-dessus.
Ça fait un peu, j'ai un plan, j'ai un contrat. Une fois qu'il est signé, je vais le changer.
On doit avoir une approche sérieuse sur la sécurité.
C'est un leader pro-choix, mais il ne peut pas faire suivre ses députés. Ses députés ne le suivent pas en pro-choix. Ils ne les suivent pas sur les vaccins. Il
ne
peut même pas faire vacciner ses propres députés. Ce n'est pas ça du leadership, M. O'Toole.
Pourquoi est-ce que nous sommes dans une élection?
Ce qu'on a vu ici, c'est pareil au même. C'est les vieux partis qui parlent comme ça.
Merci à vous cinq. J'espère, mesdames et messieurs, que vous êtes plus éclairés.
Quoi? Vous êtes encore là? Vous avez vraiment enduré tout ça? Tous ces extraits-là? De politiciens qui jouent une game, qui ont tout fait pour que le politicien qui est en train de monter dans les sondages en ce moment ne soit pas là. La petite game, là, qui sont contrôlées par toutes les grandes entreprises et toutes les compagnies. Colin, vous êtes fait fort. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce Disto News, édition du 12 septembre 2021. Mon nom est Distoman. Merci pour vos partages sur les réseaux sociaux, pour vos partages lors de discussions avec des individus face à face. Faites attention à vous. Passez une belle semaine.